Vous êtes bien sûr Esprit Occitanie. Francis Ricard, bonjour. C'est l'émission La poésie chiche. Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie. C'est l'émission La poésie chiche, Francis Ricard. Ravi de vous retrouver pour parler de poésie. Je voudrais évoquer aujourd'hui le poète Blaise Cendrars. Il y a des poètes qui nous frappent très jeunes, des poètes que l'on découvre adolescent et qui nous marquent à jamais. Et des poètes ou parfois même seulement un poème. Il joue comme un miroir qui nous sert de révélateur à nous-mêmes. Et il provoque souvent chez nous une prise de conscience. Il en est ainsi pour moi de Rimbaud, de Baudelaire, de Cendrars et de certains autres. J'ai évoqué dans des émissions précédentes Rimbaud et Baudelaire, avec Cendrars que je voudrais évoquer aujourd'hui. On se trouve dans un autre registre. Cendrars, c'est la vie, la vie, la vie, la joie, l'enthousiasme, l'aventure, le bagou, la légende, l'optimisme et la grande simplicité. La simplicité de la vie, mais aussi la simplicité de la poésie, comme je l'aime. Avec Cendrars, on est près du populaire. Cendrars, c'est l'anti-intellectuel. J'aime les êtres comme ça. On me trouve parfois personnellement solitaire, casanier, un peu sauvage, rêveur. Mais c'est que ma tête est ailleurs, en conversation permanente avec mes amis, tous rangés dans ma bibliothèque. Ça fait du monde avec qui discuter, et il n'y a là que des êtres choisis, intelligents, sensibles et disponibles. Ils me volent parfois à mes amis, que je ne voudrais pas oublier, bien sûr, mais ils me prennent beaucoup de temps, et ils sont toujours là, et ils ne me déçoivent jamais quand je tends la main pour les retrouver. Blaise Cendrars, c'est un pseudonyme que s'est choisi Frédéric Louis Sauzère. Alors je ne sais pas comment on prononce, si on dit Sauzère ou Sauzère, S-A-U-S-E-R. Il est né en 1887 et mort en 1961 à 74 ans. Il est né en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel. Mais il est très français et il prendra même la nationalité française. Il est surnommé, on l'appelle souvent Freddy. Dans sa famille, on l'appelle Freddy. Il écrit cet aveu aussi. Tout enfant, très souvent, je brûlais dans mon berceau. Je prenais feu comme une allumette et il ne restait de moi qu'un petit tas de cendres noires, toutes entortillées. J'ai fait ce rêve au moins 50 fois. C'est à partir de ce rêve qu'il prendra son surnom, donc de Blaise Cendrars, Braise et Cendre, et qui, comme un phénix, renaîtra tout le temps de ses cendres. Une date importante dans la vie de Blaise Cendrars, c'est 1904, il a 17 ans, fin d'année scolaire. Le bulletin scolaire est affreux. On note 250 heures d'absence justifiée, 374 heures d'absence injustifiée, 20 heures de colle, des notes catastrophiques, des observations désastreuses, négligence, désordre, indiscipline. Et donc ça ne va pas du tout avec l'école. Et Blaise Cendrars écrit « Je partirai loin. Je n'ai plus qu'à m'en aller. Ici, je suis de trop. » Et en septembre 1904, donc, par l'intermédiaire d'un homme d'affaires, il réussit à trouver un emploi dans le négoce à Saint-Pétersbourg, donc en Russie à ce moment-là. Il prend le train donc jusqu'à Moscou, et de Moscou, il prend un autre train jusqu'à Saint-Pétersbourg, et il va travailler chez un monsieur Lebas, qui est joaillier et horloger, dans lequel il va trier des gemmes, des diamants, de manière à fabriquer les bijoux de l'aristocratie russe de cette époque-là. Il s'installe donc à Saint-Pétersbourg, il vit avec une jeune fille qui s'appelle Hélène, et puis en 1906, donc après avoir passé deux ans 2 ans-là, il revient en Suisse. Et bizarrement, il apprend aussi la mort de cette jeune fille qu'il pensait éventuellement revoir. Et curieusement, elle est morte, brûlée, accidentellement dans son lit. Sandra part ensuite à Berne étudier. Et là, il rencontre une jeune Polonaise qui s'appelle Fela Poznanska, qui l'épousera et avec qui il aura 3 enfants. La vie est difficile. Fela est une comédienne. Elle est souvent en tournée et donc ils ne vivent pas vraiment ensemble. On retrouve Sandra à Bruxelles, à Londres, à Paris. Sandra revient à Saint-Pétersbourg et on sait que plus tard il écrira hein, ce voyage, ces différents voyages. Il les regroupera dans un livre qui s'appellera La prose du Transsibérien, mais j'en reparlerai. Et puis, comme Fela est partie à New York comme actrice, Freddy va la rejoindre, où il fait 1 000 métiers, juste avoir de quoi survivre. Et la nuit veille de Pâques, il est seul, malade, il erre dans les rues de New York, ivre de fatigue et de faim, et puis il rentre chez lui à 3 heures du matin et il écrira plus tard. Je me suis réveillé en sursaut, je me suis mis à écrire, je me suis rendormi, je me suis réveillé une deuxième fois en sursaut, j'ai écrit jusqu'au petit jour et me suis recouché. Je me suis réveillé à 5 heures du soir, j'ai relu la chose, j'avais pondu les Pâques à New York. C'est vraiment le premier grand texte fini de Sandra. Je voudrais en lire quelques lignes, les lignes, quelques vers de la fin. Les rues se font désertes et deviennent plus noires. Je chancelle comme un homme ivre sur les trottoirs. J'ai peur des grands pans d'ombre que les maisons projettent. J'ai peur. Quelqu'un me suit. Je n'ose tourner la tête. Un pas clopin-clopant saute de plus en plus près. J'ai peur. J'ai le vertige et je m'arrête exprès. Un effroyable drôle m'a jeté un regard aigu puis a passé. Mauvais. Comme un poignard. Seigneur, rien n'a changé depuis que vous n'êtes plus roi. Le mal s'est fait une béquille de votre croix. Je suis seul à présent. Les autres sont sortis. Je me suis étendu sur un banc contre le mur. Seigneur, l'aube a glissé froide comme un suaire et a mis tout à nu les gratte-ciels dans les airs. Déjà un bruit immense retentit sur la ville. Déjà les trains bondissent, grondent et défilent. Les métropolitains roulent et tonnent sous terre. Les ponts sont secoués par les chemins de fer. La cité tremble. Des cris, du feu et des fumées, des sirènes à vapeur rauquent comme des huées. Une foule enfiévrée par les sueurs de l'or se bouscule et s'engouffre dans de longs corridors. Trouble dans le fouillis empanaché des toits, le soleil, c'est votre face souillée par les crachats. Seigneur, je rentre fatigué, seul et très morne. Ma chambre est nue comme un tombeau. Seigneur, je suis tout seul et j'ai la fièvre. Mon lit est froid comme un cercueil. Seigneur, je ferme les yeux et je claque des dents. Je suis trop seul, j'ai froid, je vous appelle. 100 000 toupies tournent devant mes yeux. Non, 100 000 femmes, non, 100 000 violoncelles. Je pense, Seigneur, à mes heures malheureuses. Je pense, Seigneur, à mes heures en allées. Je ne pense plus à vous. Je ne pense plus à vous. New York, avril 1900. 12. Le texte est plus long, mais je l'ai coupé pour des commodités de lecture. Et donc, ce premier texte, lorsqu'il se reviendra à Paris, il va réussir à le faire éditer et il sera donc publié à 160 exemplaires. Sandra a donc 25 ans lorsqu'il publie ce premier livre. Il est revenu à Paris. Il vit plus ou moins avec Fela, qui est très occupée par son métier d'actrice de théâtre. Et ils vivent à Paris. Sandra est en contact avec des artistes. Hein. Il fait la rencontre de Chagall, de Léger, de Braque, de Picasso, de ce Paris des années 1910-1920. De Launay, de Soutine, d'Apollinaire, de Picabia, de Duchamp, de Juan Gris, de Modigliani. Hein, il est bien dans ce milieu-là. Et sa rencontre avec Delaunay, Sandrart a écrit dont la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Et il va avoir l'occasion de publier ce livre avec des illustrations de Sonia Delaunay dans un livre qu'on appellera un livre simultané et qui est la grande œuvre de poétique de la grande œuvre poétique de Blaise Cendrars. On connaît tous ce début de ce magnifique texte qui nous a tous fait rêver, je pense. La prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Paris 1913, dédié aux musiciens. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares, et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1003 tours, car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes, et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Un vieux moine me chantait la légende de Novgorod. Moi, le mauvais poète qui ne voulait aller nulle part, je pouvais aller partout. Et aussi les marchands avaient encore assez d'argent pour aller tenter faire fortune. Leur train partait tous les vendredis matins, on disait qu'il y avait beaucoup de morts. L'un emportait 100 caisses de réveil et de coucou de la forêt noire, un autre des boîtes à chapeaux, des cylindres et un assortiment de tire-bouchons de Sheffield, un autre des cercueils de Malmö remplis de boîtes de conserve et de sardines à l'huile. Puis il y avait beaucoup de femmes, des entrejambes à louer qui pouvaient aussi servir. Des cercueils, elles étaient toutes patentées. On disait qu'il y avait beaucoup de morts là-bas. Elles voyageaient à prix réduit et avaient tout un compte courant à la banque. Or, un vendredi matin, ce fut enfin mon tour. On était en décembre et je partis, moi aussi, pour accompagner le voyageur en bijouterie qui se rendait à Carabine. Nous avions 2 coupés dans l'express et 34 coffres de joaillerie de Pforzheim, de la camelote allemande made in Germany. Il m'avait habillé de neuf et en montant dans le train, j'avais perdu un bouton. Je m'en souviens. Je m'en souviens. J'y ai souvent pensé depuis. Je couchais sur les coffres et j'étais tout heureux de pouvoir jouer avec le Browning nickelé qu'il m'avait aussi donné. J'étais très heureux, insouciant. Je croyais jouer aux brigands. Nous avions volé le trésor de Golconde et nous allions, grâce au Transsibérien, le cacher de l'autre côté du monde. Je devais le défendre contre les voleurs de l'Oural qui avaient attaqué les saltimbanques de Jules Verne, contre les gourgouzes, les boxeurs de la Chine et les enragés petits mongols du Grand Lama, Ali Baba et les 40 voleurs et les fidèles du terrible vieux de la montagne et surtout contre les plus modernes, les rats d'hôtel et les spécialistes des express internationaux. Je m'arrête parce que c'est un texte qui est relativement long, qu'il faudrait lire en entier, évidemment. Si je le relis pour la 50e fois, c'est au moins. C'est pas bien compté. Je l'ai lu beaucoup plus de fois que ça. Ce texte est édité donc en livre simultané, c'est-à-dire peint par la peintre Sonia Delaunay. C'est un ouvrage très particulier, puisqu'il est édité en format accordéon sur 2 mètres de haut, plié en 4, et le tout sous cartonnage. Une édition très rare. Il était prévu de tirer 150 exemplaires, mais seulement 62 ont été édités. Aujourd'hui, on n'en connaît que 14, dont un qui se trouve bien sûr à la BNF à Paris, qu'on peut voir à l'occasion de certaines expositions. Pour votre information, en 2004, il n'y a pas si longtemps que ça, lors de la vente de la bibliothèque de Daniel Filipacchi, le 29 avril 2004, chez Christie's à Paris, est passé en vente donc un exemplaire de La prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France, publié en 1913 par les éditions des Hommes Nouveaux. Et pour votre information, cet exemplaire a été vendu 350 000 euros. Si vous en possédez un dans votre grenier, vous êtes bien riche. Donc Sandrard, il a là 25 ans, 26 ans, 27 ans. Il a publié dans ses deux fameux livres, Les Pâques à New York et La prose du Transsibérien, mais ce n'est pas ça, bien sûr, qui va l'enrichir. Les Pâques à New York, je le rappelle, ont été publiés à 160 exemplaires, La prose du Transsibérien à 60 exemplaires, donc ce n'est pas ça qui rapporte beaucoup d'argent. Donc Sandrard est obligé de travailler par-ci par-là. Il ne sait pas faire grand-chose. Il est souvent renvoyé de tous les endroits où il se met à travailler. Donc ce n'est pas une vie très 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 heureuse. En 1914, donc, il y a la naissance au mois d'avril de leur premier fils, avec Fella. Le premier fils s'appelle Odilon et Blaise et Fella en profitent pour se marier. Mais malheureusement, enfin, pas pour eux, mais malheureusement pour tout le monde. C'est le 3 août, c'est la déclaration de guerre 1914. Sandrard publie un appel à tous les étrangers. Toute hésitation serait un crime, dit-il, et il est incorporé dans la Légion étrangère. Mon cœur n'était plus qu'un petit tas de cendres sous lequel deux, trois braises couvaient. Et le 28 septembre 1915, lors d'une bataille, le bras droit de Sandrard est arraché par un tir de mitrailleuse. Donc il est rapatrié à Paris. Il est donc dorénavant manchot de la main droite et il va être obligé de réapprendre ou d'apprendre à écrire avec la main gauche et surtout de taper à la machine uniquement avec sa main gauche, ce qui ne l'empêchera pas d'énormément produire tout en étant dans cet état-là. En 1915 aussi, c'est la naissance de leur deuxième fils, Rémi. Et même si pour Sandrard, c'est une année terrible, une vie de désordre, d'ivrognerie, de douleur, de désespoir. Il publie malgré ça La guerre au Luxembourg, qui est aussi un recueil de poèmes, mais tout ça n'aide pas à vivre très facilement. Finalement, l'accident, la main arrachée, la main droite arrachée par ce tir de mitrailleuse, a-t-elle arraché aussi à Sandrard la poésie? Ou est-ce que c'est parce qu'il considérait que la poésie ne pouvait pas nourrir son homme? Il se met à écrire ses premiers romans. Premier roman de la main gauche, donc en 1917, Notre-Dame. Il se lie aussi à Paris avec Zara, avec Aragon, avec Desnos, avec Breton, avec Soupeau. Mais il ne se sent pas du tout l'esprit surréaliste et il ne fréquentera pas beaucoup ces gens-là. Parallèlement à ça aussi, il a une liaison qui se met en place avec une jeune fille de 20 ans. Lui en a 30. Elle s'appelle Raymonde Duchâteau, et ce sera la deuxième femme de sa vie, puisqu'il se mariera plus tard avec Raymonde. Et donc il publie en 1918 encore quelques poèmes, Le Panama ou les aventures de mes sept oncles, 19 poèmes élastiques, mais surtout, donc, il va se tourner essentiellement vers le roman. Avec Fella, il a, malgré sa liaison avec Raymonde, hein, il a malgré tout un autre enfant avec Fella, sa fille Myriam, qui est vivante aujourd'hui et qui a écrit une très belle biographie sur son père. Et il part vivre avec Raymonde, il part vivre au Tremblay-sur-Moldre, et il publie des documentaires, il écrit des articles dans les journaux, il vit un peu de tout ce qu'il peut, hein. Et en 1924, il effectue son premier voyage au Brésil, à bord du Formose. Il est invité au Brésil par Paulo Prado, le roi du café, et il fera régulièrement des voyages au Brésil, qui donneront naissance à une série aussi de poèmes qui seront regroupés plus tard sous le titre de Feuilles de route. Je vais lire quelques extraits de ce recueil, Feuilles de route. Mais avant ça, je vous propose de faire une pause musicale et d'écouter un chanteur que j'aime beaucoup, qui est Bernard Lavilliers. Bernard Lavilliers aime beaucoup lui aussi Blaise Cendrars. Il a enregistré un disque dans lequel on peut entendre la totalité de la prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France, qui dure 27 minutes. Donc vous pouvez vous procurer ce disque ou l'écouter sous d'autres formes. Mais je voudrais qu'on écoute un poème beaucoup plus court, qui est tiré justement de Feuilles de route, qui s'appelle Tu es plus belle que le ciel et la mer, qui dure à peu près 1 minute. Hein. Tu es plus belle que le ciel et la mer. Et enchaîné avec ce texte, cette chanson célèbre de Lavilliers, qui s'appelle On the Road Again. Ces deux extraits figurent dans un disque publié en 1988, donc par Bernard Lavilliers. Et je vous invite donc à l'écouter.
Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton amie, quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Le monde est plein de nègres et de négresses, des femmes, des hommes, des femmes. Regarde les beaux magasins. Ce fiacre, cet homme, cette femme, ce fiacre et toutes les belles marchandises. Il y a l'air, il y a le vent, les montagnes, l'eau, le ciel, la terre, les enfants, les animaux, les plantes et le charbon de terre. Apprends à vendre, à acheter, à revendre. Donne, prends, donne, prends. Quand tu aimes, il faut savoir chanter, courir, manger, boire, siffler et apprendre à travailler. Quand tu aimes, il faut partir. Ne larmoie pas en souriant, ne te niche pas entre deux seins. Respire, marche, pars, va-t'en. Je prends mon bain et je regarde. Je vois la bouche que je connais, la main, la jambe, l'œil. Je prends mon bain et je regarde. Le monde entier est toujours là, la vie pleine de choses surprenantes. Je sors de la pharmacie. Je descends juste de la bascule. Je pèse mes 80 kilos. Je t'aime.
Nous étions jeunes et larges d'épaule, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. 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 Des fleurs sauvages, n'y pense plus, tu es de passage. On the road again, again. On the road again, again. sais-tu que les mots d'amour voyagent mal de nos jours. Tu partiras encore plus lourd. On the road again, again. 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 On the road again.
Donc, quelques poèmes extraits de Feuilles de route, en plus de celui que nous avons entendu lire par Bernard Lavillier. Beaucoup de ces textes ont été écrits donc, à bord d'un bateau qui s'appelle le Formose, qui reliait Le Havre à Sao Paulo, sur lequel Sandra s'est embarquée. Voici des années que je n'ai plus pris le train. J'ai fait des randonnées en auto, en avion, un voyage en mer, et j'en refais un autre, un peu plus long. Ce soir, me voici tout à coup dans ce bruit de chemin de fer qui m'était si familier autrefois, et il me semble que je le comprends mieux qu'alors. Wagon-restaurant, on ne distingue rien dehors, il fait nuit noire, le quart de lune ne bouge pas quand on le regarde, mais il est tantôt à gauche, tantôt à droite du train. Le rapide fait du 110 à l'heure, je ne vois rien. Cette sourde stridence qui me fait bourdonner les tympans, c'est le passage d'une tranchée maçonnée. Puis c'est la cataracte d'un pont métallique, la harpe martelée des aiguilles, la gifle d'une gare, le double crochet à la mâchoire d'un tunnel furibond. Quand le train ralentit à cause des inondations, on entend un bruit de waterchute et les pistons échauffés de la 100 tonnes au milieu des bruits de vaisselle et de freins. Le Havre, autobus, ascenseur. J'ouvre les persiennes de la chambre d'hôtel. Je me penche sur les bassins du port et la grande lueur froide d'une nuit étoilée. Une femme chatouillée glousse sur le quai. Une chaîne sans fin, tousse, gêne, travaille. Je m'endors la fenêtre ouverte sur ce bruit de basse-cour comme à la campagne. Ton texte. Tu m'as dit, si tu m'écris, ne tape pas tout à la machine. Ajoute une ligne de ta main, un mot, un rien, ou pas grand-chose. Oui, 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 oui. Ma Remington est belle pourtant. Je l'aime beaucoup et travaille bien. Mon écriture est nette et claire. On voit très bien que c'est moi qui l'ai tapé. Il y a des blancs que je suis seul à savoir faire. Vois donc l'œil qu'a ma page. Pourtant, pour te faire plaisir, j'ajoute à l'encre 2-3 mots et une grosse tache d'encre pour que tu ne puisses pas les lire. La simplicité de... C'est aujourd'hui que c'est arrivé. Je guettais l'événement depuis le début de la traversée, la mer était belle, avec une grosse houle de fond qui nous faisait rouler. Le ciel était couvert depuis le matin, il était 4 heures de l'après-midi, j'étais en train de jouer au domino. Tout à coup, je poussai un cri et courus sur le pont. C'est ça, le bleu d'outre-mer, le bleu perroquet du ciel, atmosphère chaude. On ne sait pas comment cela s'est passé et comment définir la chose, mais tout monte d'un degré de tonalité. Le soir, j'en avais la preuve par 4. Le ciel était maintenant pur, le soleil couchant comme une roue, la pleine lune comme une autre roue, et les étoiles plus grandes. Ce point se trouve entre Madère à tribord et Casablanca à bâbord. Déjà, je me promène sur le pont dans mon complet blanc, acheté à Dakar. Au pied, j'ai mes espadrilles, achetées à Villa Garcia. Je tiens à la main mon bonnet basque, rapporté de Biarritz. Mes poches sont pleines de caporal ordinaire. De temps en temps, je flaire mon étui en bois de Russie. Je fais sonner des sous dans ma poche et une livre sterling en or. J'ai mon gros mouchoir calabré et des allumettes de cire, de ces grosses que l'on ne trouve qu'à Londres. Je suis propre, lavé, frotté plus que le pont, heureux comme un roi, riche comme un milliardaire, libre comme un homme. dire que des gens voyagent avec des tas de bagages. Moi, je n'ai emporté que ma malle de cabine, et déjà, je trouve que c'est trop, que j'ai trop de choses. Voici ce que ma malle contient. Le manuscrit de Moravagine que je dois terminer à bord et mettre à la poste à Santos pour l'expédier à Grasset. Le manuscrit du plan de l'aiguille que je dois terminer le plus tôt possible pour l'expédier au Sans Pareil. Le manuscrit d'un ballet pour la prochaine saison des ballets suédois et que j'ai fait à bord entre le Havre et la Palisse d'où je l'ai envoyé à Satie. Le manuscrit du Cœur du Monde que j'enverrai au fur et à mesure à Raymond. Le manuscrit de l'Équatoria. Un gros paquet de contes nègres qui formera le deuxième volume de mon anthologie. Plusieurs dossiers d'affaires, les deux gros volumes du dictionnaire d'Armesteter, les Remington portables, dernier modèle, un paquet contenant des petites choses que je dois remettre à une femme à Rio, mes babouches de Tombouctou qui portent les marques de la grande caravane, deux paires de godasses mirifiques, une paire de vernis, deux complets, deux par-dessus, mon gros chandail du Mont-Blanc, mes menus objets pour la toilette, une cravate, 6 douzaines de mouchoirs, 3 liquettes, 6 pyjamas, des kilos de papier blanc, et un gris-gris. Ma malle pèse 57 kilos sans mon galurin gris. Il faut imaginer cet homme, ce brave homme, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup Blaise avec sa tronche, sa gueule inoubliable, comme l'a écrit Henry Miller, sa bouille particulière, son gros nez d'ivrogne, son béret, comme il vient de le dire, ou souvent aussi un feutre, mais toujours un galurin sur la tête, comme il dit. Et puis, surtout, toujours la clope au bec, les clopes roulées, le gris, et puis cette dégaine absolument incroyable. Arrivé à Sao Paulo, j'adore cette ville. Saint-Paul, Sao Paulo, j'adore cette ville, Saint-Paul, et selon mon cœur, ici, nulle tradition, aucun préjugé, ni ancien, ni moderne. Seul compte cet appétit furieux, cette confiance absolue, cet optimisme, cette audace, ce travail, ce labeur, cette spéculation qui font construire 10 maisons par heure de tout style ridicule, grotesque, beau, grand, petit, nord, sud, égyptien, yankee, cubiste, sans autre préoccupation que de suivre les statistiques, prévoir l'avenir, le confort, l'utilité, la plus-value et d'attirer une grosse immigration. Tous les pays, tous les peuples, j'aime ça. Les 2-3 vieilles maisons portugaises qui restent sont des faïences bleues. La cabine 2, c'est la mienne. Elle est toute blanche. J'y serai très bien tout seul, car il me faut beaucoup travailler pour rattraper les 9 mois au soleil, les 9 mois au Brésil, les 9 mois aux amis, et je dois travailler pour Paris. C'est pourquoi j'aime déjà ce bateau archibondé, où je ne vois personne à qui faire causette. J'ai donné un bon pourboire au maître d'hôtel pour avoir dans un coin une petite table à moi tout seul. Je ne ferai pas de connaissances. Je regarde les autres et je mange. Voici le premier menu de goût européen. J'avoue que je mange avec plaisir ces plats d'Europe. Alors voilà, potage Pompadour, culotte de bœuf à la bruxelloise, perdreau sur canapé, le goût est le sens le plus atavique, le plus réactionnaire, le plus national, analytique, aux antipodes de l'amour, du toucher, de l'amour, en pleine évolution et croissance universelle, révolutionnaire, synthétique. Il arrive donc à Rio de Janeiro, écrire. Ma machine bat en cadence, elle sonne au bout de chaque ligne, les engrenages grasseillent. De temps en temps, je me renverse dans mon fauteuil de jonc et je lâche une grosse bouffée de fumée. Ma cigarette est toujours allumée. J'entends alors le bruit des vagues, les gargouillements de l'eau étranglée dans la tuyauterie du lavabo. Je me lève et trempe ma main dans l'eau froide où je me parfume. J'ai voilé le miroir de l'armoire à glace pour ne pas me voir écrire. Le hublot est une rondelle de soleil. Quand je pense, il résonne comme la peau d'un tambour et parle fort. Un petit passage un peu coquin, qui s'appelle Nourrice et Sport. Quand on joue au palais sur le pont, chaque fois que la jeune Allemande se penche, elle montre 2 petits seins blottis au fond de son corsage. Tous les hommes, du passager des premières au matelot, connaissent ce jeu. Et tous passent par le pont bâbord pour voir ces 2 choses rondes au nid. On doit en parler jusque dans la cambuse, au bout d'un banc, dans un coin sombre. Un nourrisson se pend et fait gicler un grand sein de négresse abondante et gommeux, comme un régime de bananes. J'ai acheté 3 ouistiti que j'ai baptisés Ik, Aek, Ok, 12 colibris, 1000 cigares et une main de Bayana grande comme un pied. Avec ça, j'emporte le souvenir du plus bel éclat de rire. Quand j'écris, mes petits singes me regardent. Je les amuse beaucoup. Ils s'imaginent qu'ils me tiennent en cage. Je meurs de chaleur dans ma cabine et je ne puis pas aérer pour ne pas exposer ma petite famille de petites bêtes au courant d'air. Tant pis. Je reste dans ma cabine. J'étouffe et j'écris, j'écris. J'écris pour leur faire plaisir. Ces petites bêtes sont bien gentilles et moi aussi. On m'appelle. Il y a des requins dans notre sillage. 2, 3 monstres qui bondissent en virant du blanc quand on leur jette des poules. J'achète un mouton que je balance par-dessus bord. Le mouton nage, les requins ont peur. Oh, je suis volé. J'ai passé la soirée dans l'entrepont et dans le poste de l'équipage. C'est une véritable ménagerie à bord. Bengali, perroquet, singe, un fourmilier, un cachorro, de la marmaille nue, des femmes qui sentent fort. Voilà, je pense que je vais m'arrêter par là. Peut-être le texte de la fin de ce magnifique recueil. On trouve ces recueils de poésie chez Gallimard dans la collection de poche Gallimard, la collection toute blanche là. Nous ne voulons pas être tristes. C'est trop facile. C'est trop bête. C'est trop commode. On a trop souvent l'occasion, c'est pas malin. Tout le monde est triste. Nous ne voulons pas être tristes. Fin 1924. Donc je le disais, la poésie devient de plus en plus rare chez Sandrard. Et l'essentiel maintenant de son travail sera donc d'écrire des romans. Vous connaissez bien sûr L'Or, 1926, Moravagine, 1926 aussi, Vol à voile, Une nuit dans la forêt, Le plan de l'aiguille, La confession de Daniac, Rhum, L'aventure de Jean Calmont, 1929-1930. Et puis il continue, beaucoup, il écrit beaucoup, beaucoup, Histoire vraie, La vie dangereuse, D'outre-mer à Indigo. Il est aussi de nouveau interpellé par la guerre de 39. En 39, vous le savez, en 39, il a 42 ans. Et 52 ans, pardon, en 39, 52 ans. 52 ans en 39. Et il s'était exilé à Aix-en-Provence. Il est pauvre, solitaire. Il a divorcé de Fela. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Ses deux fils ont été faits prisonniers. Raymond est parti en Amérique du Sud, toujours pour faire du théâtre, avec la troupe de Louis Jouvet. Et puis, Sandrard donc, travaille avec la British Expeditionary Force pour au QG d'Arras, comme correspondant anglais. Malgré ça, donc, il arrive à continuer à écrire. Il n'est pas sur le front, bien entendu. À son âge, il est à l'arrière. Et il écrit, en 1945, « L'homme foudroyé ». Son fils, en 1944, son fils se tue en avion. Donc la vie n'est pas très agréable. Et qu'en 1948, il vit avec Raymond à Segond. Ils se sont installés à Villefranche-sur-Mer. Il est ami avec Braque, avec Doineau. Et puis il écrit un livre qui va quand même le rendre célèbre, mais jamais rapporté énormément d'argent. Son livre, c'est Bourlingué. Un autre livre, Le lotissement du ciel. Et puis se marie avec Raymond Duchâteau, donc son deuxième mariage, puisque Fela est morte. et il écrit « Amène-moi au bout du monde », ce qui en dit long. Malheureusement, on s'approche de la fin de la vie de Sandra. Et le 21 juillet, il est victime, 21 juillet 56, hein, il est victime d'une hémiplégie qui paralyse son bras gauche, hein, le seul bras qu'il avait valide. Et en 58, il a une nouvelle attaque. Il réussit à dicter un texte qui s'appelle « Trop, c'est trop », qui en dit long, hein, ne serait-ce que le titre « Trop, c'est trop ». Et Blaise Sandrard meurt le 21 janvier 1961 à 74 ans. Le bilan de son œuvre, c'est au moins presque une quarantaine de titres. Même s'il annonce en avoir encore 30 en projet, en chantier. Mais bon, une quarantaine d'œuvres qu'on peut lire aujourd'hui. La plupart sont éditées donc, en livre de poche. Et c'est toujours des lectures passionnantes parce qu'elles sont quand même très modernes. Voilà, c'était la poésie Chiche par Francis Ricard. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site Esprit L'Occitanie. Merci de votre fidélité et rendez-vous si ça vous a intéressé pour la prochaine émission. Merci beaucoup, à bientôt.
Voilà, c'était la poésie Chiche. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie. Merci de votre fidélité et rendez-vous pour la prochaine émission. À bientôt, chers amis.